Ok. Voilà. Non. Ça fait 16 ans que j'avais apporté une méditation là-dessus. Et puis, on priait il y a une semaine avec Didier et Serge, jeudi dernier. Puis j'avais une petite voix qui me disait, de la part du Seigneur, « Je cherche mes amoureux. Je cherche mes amoureux. » Petite voix douce. Et bon, j'ai compris, Seigneur, j'ai le thème de mon message. Et donc, je suis revenu sur cette méditation. J'ai demandé au Saint-Esprit de revisiter par rapport à ce passage, parce que nous avons là quelque chose qui nous aide à comprendre cette Église, cette personne amoureuse que nous devons être à travers une personne, hein, ici. Donc, voilà, on va lire ensemble ce passage. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, je me souviens de ce qui m'avait amené à ce message il y a 16 ans. Il y avait Carlos Payan qui venait dans notre église pour la deuxième fois après un premier passage. Et puis on était en petit groupe et puis il avait reçu cette parole. Où sont mes amoureux? Où sont mes amoureux? Donc j'ai vraiment senti que c'était un appel du Seigneur. Et ces derniers jours, j'entends de nouveau cette voix. Alors, c'est vrai que c'était la fête des amoureux. C'est pas un fête exprès, j'ai absolument rien calculé. Hein, j'ai absolument rien calculé. Mais voilà, donc on s'est souvenu peut-être de la fête des amoureux. Et c'est bien de faire ce qu'il faut pour renouveler l'amour dans notre couple. Mais est-ce qu'on entend la voix du Seigneur dans cette perspective de son retour, des événements qui viennent, etc.? Est-ce que nous entendons sa voix pressante qui dit « Je cherche mes amoureux ». Alors, le Seigneur donc m'a montré ce passage et m'a montré que ces deux personnages dont l'attitude est mise en relief par la couleur, hein, en vert, c'est l'attitude un peu de la femme, Et en rouge, c'est l'attitude de Simon. Dieu m'a montré clairement que ces deux personnages symbolisent deux églises. Et on voit cette symbolique souvent dans l'Évangile, dans la Bible. Je me souviens d'avoir été interpellé par les deux brigands sur la croix. Et je me souviens qu'à une période de la Passion, Dieu m'a montré que ces deux brigands représentaient deux visions du royaume. Et là, on peut dire que ces deux personnages représentent deux visions de l'Église. Alors, et deux visions diamétralement opposées, deux églises diamétralement opposées. Alors, voyons le premier personnage. Ah, il s'agit de Simon. Et à travers lui, le Seigneur me montrait l'Église formaliste. Simon est distant de Jésus. Certes, il l'invite bien à sa table, mais Jésus lui fait remarquer qu'il n'a pas accompli un certain nombre de gestes d'hospitalité. Donc il a un certain respect, mais qui est plutôt une politesse de façade. Son cœur est éloigné. Dans la Bible, on voit souvent Dieu pointer son peuple pour sa distance, sa superficialité. Vous connaissez ce passage, ce peuple, combien de fois il l'a dit à son peuple Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Et ça, c'est vraiment le risque qui nous guette toujours, hein. Qu'on soit des gens qui honorent des lèvres, mais dont le cœur est éloigné. Et bien sûr, on sait tous, dans la livre de l'Apocalypse, dans la première et la dernière lettre aux églises, il y a le rappel à l'ordre, l'abandon du premier amour et la tiédeur. L'église formaliste, elle est distante de Jésus. Il y a une distance, son cœur est éloigné. Simon n'est pas empressé de servir Jésus. Il n'en oublie même des coutumes d'accueil fréquentes en Orient. Hein. Il y a des coutumes d'accueil fréquentes en Orient, il en oublie cela. Et il montre par là que son mobile premier en invitant Jésus n'était pas l'affection. Mais certainement une simple curiosité, une occasion de l'observer, ou peut-être une envie d'épater ses amis en disant « j'ai invité celui qui est en vue en ce moment ». L'Église formaliste, comme Simon aussi, n'est pas empressée de servir. Ses priorités sont ailleurs. Ses priorités sont ailleurs. Simon n'a pas conscience de sa dette envers Jésus. Et il est certainement aveuglé par sa propre justice. Pour les mains qui jugent cette femme, hein, il la juge. L'Église formaliste non plus n'a pas conscience de sa dette ou elle a mis en oubli l'énormité de sa dette. Elle ne connaît pas les larmes qui viennent d'un cœur brisé ou inondé de reconnaissance envers son Sauveur. Simon n'a pas la compassion pour cette femme, puisqu'il la juge alors même qu'elle s'approche de Jésus dans un élan d'amour. L'Église formaliste manque souvent de cette compassion et ne voit pas l'œuvre que Dieu fait même parmi les plus pauvres, parmi les perdus. Il y a un certain aveuglement. Mais, allez, on s'intéresse à ce qui nous met en avant. Voyons l'attitude de cette femme, dont il est dit que c'est une femme de mauvaise réputation, probablement une prostituée. Il est rendu ce témoignage par Jésus qu'elle a beaucoup aimé. Et cette femme est le symbole de l'Église amoureuse et passionnée. Elle cherche désespérément Jésus. Je pense qu'elle a dû s'inquiéter de dire « Mais où est Jésus ? J'ai su qu'il est dans cette ville, où est-il ?» Elle l'a cherché. elle l'a trouvé au point de le rejoindre, même dans un endroit hostile. Pour rentrer chez un pharisien, elle, avec sa réputation, elle ne devait pas s'attendre à être accueillie de gaieté de cœur. Elle suit Jésus jusque dans un milieu hostile. Cette femme probablement a déjà rencontré Jésus et a été certainement déjà touchée par sa miséricorde. Alors on ne peut qu'admirer son courage et son audace pour oser rentrer dans cet endroit où elle sait qu'elle sera méprisée. L'Église amoureuse cherche sans cesse Jésus, sa présence. Non pas comme si elle ne l'avait jamais trouvé, mais elle jouit tellement de sa présence qu'elle aspire sans cesse à le rencontrer. Ah, et le livre des Cantiques nous parle de cette Église amoureuse à travers la Sulamite. Je chercherai celui que mon cœur aime. Et c'est bien comment le Saint-Esprit a dirigé quand même aujourd'hui en rappelant ce premier commandement. Hein, merci Odile, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vraiment, c'était conduit. Hein. Cette femme a conscience que sa dette est énorme. Voilà, je crois que nos cultes doivent témoigner que notre dette est énorme. Et s'il y a des larmes qui doivent venir, laissons venir les larmes. Laissons venir les larmes. C'est des larmes de reconnaissance. Cette femme sert et va même au-delà des normes, des conventions habituelles. Je pense, je me souviens de prédication de Robert sur le Marie de Béthanie, qui est un passage identique. Hein. Et le titre, c'était l'amour exubérant. Ouais. C'est extravagant? Oui, c'est ça. Extravagant. Oui, 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 c'est pas exubérant. Merci. Très bien. Extravagant. Et c'est vrai que parfois on peut voir la démonstration de cet amour extravagant et parfois ça peut heurter un peu nos consciences, dire, oh quand même il va trop loin. Mais si c'est motivé par l'amour, qui sommes-nous pour juger? Ouais. Elle mouille les pieds de Jésus, non pas avec de l'eau, mais avec ses propres larmes. Elle ne se contente pas d'un baiser, mais elle dit qu'elle ne cesse d'embrasser, il est dit qu'elle ne cesse d'embrasser les pieds de Jésus. L'Église amoureuse n'a pas besoin d'être remontée pour servir. Elle sert Jésus avec empressement. Et enfin, cette femme ne calcule pas dans l'expression de son amour. Elle répand un parfum qui coûte, non de l'huile ordinaire. Elle répand un parfum qui coûte, voilà. Qui coûte. L'Église amoureuse se donne, comme les chrétiens de Macédoine, hein, dont l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Alors voilà, quelle Église voulons-nous? L'Église formaliste ou l'Église amoureuse et passionnée? Moi, je souhaite que notre Église, elle soit réputée pour être une Église amoureuse de Jésus. Ouais. Alors surtout, cette Église formaliste, ne la voyons pas seulement chez les autres. Dans une autre Église que la nôtre, elle se trouve invariablement parmi toutes les étiquettes. Le formalisme appartient à la vieille nature, à ce vieil homme qui a été crucifié à la croix. Donc, voyons notre poutre avant de voir la paille de l'autre côté. Mais déclarons que ce vieil homme formaliste ou religieux, mais religieux dans le mauvais sens du terme, hein, a été crucifié à la croix. Renonçons à cette personne distante de Jésus. Voyez, est-ce que ce matin on peut renoncer à cette distance que quelquefois on a vis-à-vis de Jésus? Ça, en fait, l'Église formaliste, elle est distante. Ce matin, on va peut-être reprendre un engagement à renoncer à cette distance. Un peu. peu superficiel parfois dans notre amour. Pour quelle église Jésus s'est livré, hein? Le Seigneur m'a montré ce passage. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je crois que cette église glorieuse pour laquelle Jésus s'est livré, on n'a pas de mal à penser que c'est une église amoureuse et passionnée. Deux fois le verbe aimer est utilisé avant que Paul parle de cette église. Deux fois. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré pour faire paraître cette église glorieuse. L'église glorieuse que Jésus va venir chercher, c'est une église amoureuse et passionnée. L'église glorieuse pour laquelle Jésus s'est livré est une église amoureuse et passionnée. C'est cette église qu'il viendra chercher. Alors en ces temps de la fin, dans cet ébranlement des choses auxquelles on assiste en ce moment, dans cette perspective de plus en plus évidente du proche retour de Jésus, est-ce que nous entendons sa voix qui nous dit « Je cherche mes amoureux ». C'est pour cette Église que Jésus s'est livré, qu'il viendra chercher. Et pendant que je priais par rapport à ça, je recevais deux assurances. La première, être amoureux de Jésus, c'est une clé pour la victoire sur toutes les frustrations, quelles qu'elles soient. C'est une clé pour la victoire sur toutes les frustrations. Vous avez des frustrations quelquefois. Ah, il me manque ceci. Ah, il me manque cela. Ah, je porte pas assez de fruits. Le Seigneur me montrait que c'est la clé pour être victorieux de toutes les frustrations. Celle de manquer de liberté, de se sentir prisonnier, de ne pas assez porter de fruits. Demeurer amoureux de Jésus, c'est la clé pour la victoire. Et je rappelle une petite histoire que Didier a racontée mardi, ceux qui étaient là mardi soir. Didier a raconté une petite histoire, l'histoire d'une femme qui avait un mari sévère, pas aimant. Et ce mari, il donnait régulièrement une liste à sa femme de choses à faire, multiples. Et cette femme n'arrivait pas à aller au bout de la liste à la fin de la journée. Elle n'y arrivait pas et donc elle était sujette aux réprimandes de son mari. Un jour, son mari est mort, est décédé. Cette femme a refait sa vie. Et là, elle a trouvé un mari aimant, un mari qui l'encourageait, très aimant. Et pendant qu'elle se revigorait avec ce mari aimant, elle retombe sur une liste. Et elle regarde la liste et dit, mais j'ai accompli toutes ces choses. J'ai accompli toutes ces choses. Parce qu'elle était portée par l'amour de son mari. C'est l'amour qui nous porte. C'est l'amour de Dieu que nous recevons, qui va nous aider à remporter toutes les victoires sur toutes nos frustrations et à faire même ce qu'on se sent incapable de faire. Elle faisait ce qu'elle se sentait incapable de faire avec ce mari qui était peu aimant. Elle pouvait tout accomplir. Elle pouvait tout accomplir. Chers amis, on a été fiancés à un seul époux. Mais quel époux ! Un époux qui a livré sa vie pour nous et qui chaque jour nous prodigue des soins et nous déclare son amour. Et cet amour nous communique de nouvelles forces. J'ai mis cette photo, c'est une sculpture faite par un chrétien né de nouveau, qui a cet appel du Seigneur de sculpter pour essayer de dégager, manifester l'amour du Christ. Et voyez, on sent cet amour du Christ. Et je pense que, je ne me souviens plus au moment où j'ai eu une copie de cette sculpture, c'est Maggie qui m'avait passé ça, je crois, que cette femme, ça doit être ou la femme adultère ou cette femme prostituée dont on a parlé dans le texte, mais une femme pécheresse, une femme de mauvaise réputation. Et cette femme a été touchée par la miséricorde de Dieu, elle est devenue quelqu'un de nouveau. Et on peut regarder, je l'ai mis dans mon bureau chez moi, je la regarde souvent cette photo, parce qu'elle nous touche. On capte vraiment l'amour de Jésus. La miséricorde de Jésus. Alors une deuxième assurance, Jésus n'échouera pas dans son entreprise de venir chercher cette église amoureuse. Il ne va pas échouer. Alors si en ce moment vous avez de la tristesse parce que vous vous sentez un peu sec, pas trop amoureux, je pense que tous à un moment on a dû le sentir, hein. Mais si particulièrement en ce moment vous vous sentez sec, ne désespérez pas, mais redressez-vous et criez au Seigneur votre désir de lui, de sa présence, de sa proximité. Demandez-lui de renouveler votre joie, de le rencontrer et de le servir. J'ai senti qu'on puisse, vous voyez, il est moins 20, on puisse prendre un temps de prière. On ne prend pas toujours ce temps, je sens qu'on doit le prendre. Prendre ce petit temps, demander au Seigneur de venir nous visiter. Je vais remettre cette image. Vous pouvez la regarder, vraiment. Je me souviens qu'une fois, j'allais dans un... c'était au Château Blanc d'ailleurs, un week-end dans sa présence. J'étais sec, je revenais, j'étais sec. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai entendu simplement la voix du Seigneur dire, mais laisse-toi aimer. Alors si vous vous sentez, certains se sentent secs là ce matin, le Seigneur commence par te dire, laisse-toi aimer. Ensuite, il va te dire autre chose. Le Seigneur m'a montré que si on fait cette prière, on va prier maintenant, si on fait cette prière de demander d'être plus amoureux, le Seigneur va produire les circonstances qui vont nous amener à faire des petits pas, et lui fera un grand pas. Et à nous d'entendre ces petits pas que le Seigneur nous demande de faire, c'est peut-être, je ne sais pas moi, une vidéo à regarder, ou c'est une rencontre qu'il va nous donner, hein. Et puis peut-être il va vous dire, allez, prends-moi un rendez-vous avec moi chaque jour là, ou prends un rendez-vous hebdomadaire un peu plus long. Voilà, des petits pas, et lui il va faire un grand pas. Amen. Ne doutez pas un seul instant que cette prière rend moi plus amoureux, le Seigneur n'a qu'un désir, c'est d'y répondre. Donc, n'ayons aucun doute maintenant, aucun doute sur la réponse du Seigneur. Il va vous donner les clés. Voilà, ceux qui se sentent très secs, ayez le courage, ce matin, de faire le pas de venir ici devant. Ceux qui se sentent secs en ce moment. On ne va pas juger, parce que tous à un moment, on traverse ces moments de sécheresse, d'accord ? On traverse ces moments de sécheresse. Et après, on va prier pour tout le monde. Hein. Et tous ceux qui, par contre, ont été revigorés dans leur amour, eh bien, que ce soit les premiers à prier. Mais si quelqu'un traverse un temps de sécheresse là en ce moment, voilà, n'ayez pas peur. Venez ici devant ou levez-vous simplement si vous avez un peu... Mais une démarche, voilà, une toute petite démarche, un petit pas, c'est un petit pas. Un petit pas que le Seigneur demande. Regardez bien cette image. Regardez bien. Voilà, si vous sentez interpellé par la parole « Je cherche mes amoureux », vous sentez un peu sec et le Seigneur veut vraiment, vraiment vous visiter. Et le Seigneur vous dit « Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. » Alors, il n'y a personne qui est sec parmi nous ? Ah, d'accord. Ok, très bien. Voilà, très bien, très bien. Voilà. Voilà, maintenant, je suis sûr qu'il y en aura d'autres, parce que les premiers ont fait le pas. Voilà. Très, très bien. Ouais. Alors, on n'est pas meilleur, là, du tout. On ne se juge pas. On traverse tous des moments de sécheresse. Voilà. Et alors, j'invite maintenant, on va se mettre debout, peut-être, hein, d'accord ? Et puis si l'un ou l'autre se sent encore appelé, son cœur il bat, ça veut dire que vous devez vous avancer aussi. Voilà, et qu'il y ait des premières prières montent maintenant. Pour Annette, pour Rémi, pour Jean-Claude. Voilà, pour qu'ils soient visités. D'accord ? Allez, que les premières prières montent maintenant. On veut prendre ce temps de ministère en toute liberté. On veut vraiment être dans la liberté du Saint-Esprit. On veut permettre au Saint-Esprit d'agir. Maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Tiens, Annette, approche-toi, peut-être comme ça on va prier. Approche-toi de Jean-Claude. Et voilà. Et tous ceux qui veulent prier avec nous, vous pouvez venir. On est libre. Voilà, Serge, Muriel, n'hésitez pas. Oui. Voilà, Sylviane, si tu veux. Voilà, tous ceux qui veulent. Voilà, nous prions pour ce renouvellement. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Tu entends ces cris. Tu entends ces cris à l'intérieur. Ces cris à l'intérieur, Seigneur. Et tu veux libérer Rémi, Jean-Claude, Annette de toute frustration. De toute frustration. Tu veux renouveler la flamme. Tu veux renouveler ce premier amour. Comme au premier jour. Comme au premier jour. Tu vas leur indiquer les petits pas. Les petits pas qui vont permettre ces grands pas que toi tu vas faire. Louange à toi. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Alléluia. Je me souviens de quelqu'un qui disait, qui venait d'être rempli du Saint-Esprit, touché par l'amour, qui disait, je pourrais tout perdre et être dans une pâture. Une pâture, tout seul, eh bien, je crierai mon amour pour le Seigneur. Voilà, Seigneur, je te demande cette visitation. Alléluia, louange à toi. Amen. Juste avant, Rémi, donc cette parole que je sens que c'est une parole prophétique pour l'Église, on l'a reçue beaucoup, beaucoup, beaucoup au début de l'Église, mais elle est redonnée encore ce matin. À l'Église, le Seigneur dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, mais on nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen.